Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, 7h10 sur RMC. Un grand bonjour en ce dimanche matin, en ce 8 novembre 2020. On est ensemble jusqu'à 10h pour ce week-end des experts et c'est l'automobile. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Jean-Luc Moreau est à mes côtés. Jean-Luc, enlevez encore un petit peu les restes de croissant que vous avez autour de la bouche. Nous sommes partis pour 3 heures donc dédiées à l'automobile avec vos questions au 32-16. Comment ça va, Jean-Luc Moreau?
Tiens. Bonjour, monsieur François. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Je vois que vous avez de l'appétit, en tout cas. Ça fait plaisir.
Bah, écoutez, ça va bien.
Oui, mais ça, hein,
ça,
voilà.
Ça va bien, voilà.
C'est un beau bébé, comme on dit, comme dirait Christian Ricciard. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, plein de choses durant ces 3 heures d'auto et en priorité, vos questions au 32-16. Ahmed nous attend, on va le retrouver dans une minute. Jean-Luc, on va parler de véhicules autonomes tout à l'heure, on fera le point parce que c'est vrai que, et même nous, on était tombés dans le panneau, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, il y a quelques années, on estimait que le véhicule autonome était à nos portes, en fait, allait arriver dans quelques années, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas pour tout de suite.
Ouais, hein. Si vous vous souvenez des émissions qu'on a faites sur le sujet, à chaque fois que j'ai essayé des voitures qui avaient des fonctions d'autonomie, j'ai toujours mis des guillemets.
Oui, un peu. Hein, il y avait
de la réserve. Et elle était, c'était souvent sur des points qui
étaient... Non, on était enthousiastes.
Essentiel. Oui. Mais ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Mais bon, en gros, c'est plus la priorité des constructeurs aujourd'hui.
Voilà. Bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Notre bon plan sécurité. On vous dira comment utiliser les ronds-points. Notre minute verte, la première hybridation d'un véhicule d'époque grâce à l'aventure Peugeot. C'est étonnant, hein, c'est intéressant ça, une voiture ancienne à laquelle on garde le moteur thermique et on rajoute une batterie pour la l'hybride.
Comment on dit, hybridée.
Voilà.
On rajoute un moteur électrique et une batterie sans modifier la mécanique d'origine, c'est-à-dire qu'en plus c'est réversible, donc vous ne dénaturez pas le côté collection de la voiture,
mais on a
vous
le bruit, ajoutez, etc.
Voilà, vous y ajoutez un moteur électrique. D'accord. Qui permet de faire 50 km en ville environ, roulant à 50 km heure maxi.
Je me demande où on trouve la place pour mettre tout ça, mais on en parlera tout à l'heure justement, vous nous expliquerez. On retrouvera aussi l'actu de la semaine dans le monde de l'automobile. Maître Rémi Jossomme sera réveillé aux alentours des 8h20 à peu près.
Oui.
Par là,
ouais.
Hein.
Ouais, voilà.
Maître Rémi Jossomme qui nous mettra en garde quand on fait essayer notre véhicule.
Oui, vous c'est vendez étonnant, votre voiture, il y a un acheteur qui vient, il a l'air très bien.
Oui, hein, voilà.
Et puis, il fait un petit tour avec votre voiture.
Puis le tour dure longtemps.
Au bout de 2-3 jours, il n'est toujours pas revenu. Donc vous allez déposer plainte et puis vous demandez à votre assureur, en disant on m'a volé ma voiture, non. Pour l'assureur, on vous a pas volé votre voiture, vous lui avez donné les clés.
Ah bon? C'est pas la même chose.
Mais c'est pas du tout pareil.
Maître Rémi Jossomme tout à l'heure, donc question pas si bête, un constat est-il obligatoire en cas d'accident? Et puis on fera un point sur la saison 5 de Wheeler Dealers.
Qui démarre cette semaine.
Et Aurélien Leteux, qui est le présentateur de Wheeler Dealers, sera avec nous au téléphone dans cette toute fin de ce rendez-vous auto. Voilà, vous savez tout. Bienvenue. 3 heures d'auto dès maintenant. Le 32-16 pour toutes vos questions. L'appli RMC Direct Studio. Et on attaque avec Ahmed qui est là. Ahmed est là, bonjour.
Oui, bonjour François Sorel, bonjour Jean-Luc Moreau.
Bonjour Ahmed.
Je vous remercie de m'avoir accordé ce moment à l'antenne.
Mais c'est un vrai plaisir.
Voilà mes questions. Je vous appelle de Bretagne, de Rennes.
Bah écoutez, toute personne n'est parfaite, hein. Qu'est-ce que je vous dis?
L'écoutez pas, Ahmed. Moi, je suis de votre côté. Moi, je suis plutôt plus breton que corse.
Allez-y, Ahmed.
Alors, donc, actuellement, voilà ma question. Actuellement, je suis en possession de deux véhicules BMW E34.
D'accord.
L'une est une 530i 6 cylindres année 89, donc elle a 31 ans. Elle accuse plus de 331 000 km. Véhicule bien entretenu, suivi exclusivement par la concession BMW à Rennes. Des frais effectués depuis 2018 à 2020 aux alentours de 3 000 euros. Les factures d'avant, presque 5 000. Et je demande votre avis, est-ce que sa cote pourrait-elle voir le jour? Et est-ce que je dois la garder? Ça, c'est une question pour la 530. Pour la seconde, c'est une 530 IA, donc automatique. C'est une E34 aussi, année 95.
Et j'ai l'impression d'être sur le bon coin avec
ouais,
vous là.
Ouais, donc,
c'est pas mal.
Donc avec un moteur V8.
Le bon coin à la radio.
V8,
voilà, donc avec un moteur V8. Et elle a combien de kilomètres celle-là?
200, plus de 231 000.
Ouais, elles sont neuves l'une et l'autre.
Oui.
Donc
cette
troisième génération de BMW série 5, bon, qui a été produite de 87 à 96, on était, alors 96 c'était le break d'ailleurs, hein, 95 la berline s'est arrêtée en 95. C'était une petite BMW série 7, très bien construite, d'ailleurs ça vieillit bien, je vais pas vous le vendre puisque vous en avez deux, donc vous savez que ça vieillit bien. Alors, pour vous parler de la cote de ces voitures, j'ai travaillé pendant 3 ans pour l'Argus, où on était en train justement de réfléchir à la cotation de ces voitures qui ne sont plus dans les cotes standards. Une cote standard, ça s'arrête à 15 ans. Et les cotes de voitures de collection sont assez peu précises et ne référencent pas des véhicules comme ça. Donc on avait entrepris de commencer à coter tous ces véhicules-là, ce qu'on appelle des youngtimers ou des voitures de collection, puisqu'il y en a une des deux qui a plus de 30 ans, donc elle est éligible comme véhicule de collection, enfin tout du moins à la carte grise de collection. On avait entrepris...
Non, mais
je veux dire, j'avais commencé à entreprendre ce travail-là. J'ai mis au point un système de calcul qui permet d'arriver à obtenir une cote assez précise des véhicules, qui tient compte de l'état des voitures. Pourquoi ? Parce que autant quand vous avez un véhicule, on va dire qu'entre 1 et 10 ans, ce qui compte, c'est la date de commercialisation, le kilométrage du véhicule. Autant sur des véhicules anciens, on se fiche de la date de commercialisation, qu'elle ait 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ça n'a pas d'importance. La seule
chose qui compte... Le kilométrage aussi est secondaire, en fait.
Le kilométrage reste secondaire, parce que souvent, les voitures ont eu des gros travaux.
Bien sûr.
Et voire des restaurations totales. Ce qui compte, c'est l'état du véhicule.
Oui.
On juge... L'état du véhicule,
l'état mécanique et l'état,
oui, l'état général
l'état
de la
général.
Voiture, c'est ça qui fait la valeur de la voiture. Donc j'ai mis au point un système qui permet de calculer ça. Pour l'instant, il n'est pas disponible pour le grand public. Je vais travailler dessus là en 2021. Donc il n'est pas exclu que bientôt vous puissiez faire une cote très détaillée de votre voiture. Pour l'instant, on a des cotes un peu à l'emporte-pièce. Hein. Une E34, donc une série 5. En 6 cylindres, ça vaut aux alentours de 5000 euros, mais il faudrait pouvoir faire le détail de la vôtre. Vous voyez, je vous dis 5000 euros, mais si ça se trouve, elle en vaut 8000. Mais il faudrait, avec mon système, pouvoir faire un détail précis. Mais pour ça, il faudrait que je vous donne une petite méthode avec
une recette.
Oui. C'est pas une recette. Hein. Il y a un algorithme qui permet de calculer ça. Mais je vais pas vous, évidemment, vous envoyer l'algorithme. C'est environ 9000 euros.
C'est un peu tôt, en plus, le dimanche matin.
Oui, c'est un peu tôt. Et puis, c'est environ 9000 euros pour le V8. Mais ça, c'est des valeurs, ce qu'on appelle en état 3. Parce qu'en fait, les assureurs et même le monde de la collection raisonnent. Je vous ai dit, la valeur des voitures, c'est en fonction de l'état. Et il y a des états définis. L'état 3, c'est ce qu'on appelle l'état d'usage. Donc, c'est une voiture en état standard qui fonctionne correctement mais qui n'a pas été restaurée. Ensuite, on va vers l'état 1 qui est un état parfait. Donc, c'est ce qu'on appelle un véhicule
restauré.
En état concours.
Voilà, qui a été restauré.
Donc, qui est comme neuve. Voilà. L'état 1, c'est, on va dire, elle est neuve, la voiture. Et ça va jusqu'à l'état 5 où là, elle ne marche pas. Il faut la restaurer, etc. Et en fonction, évidemment, de l'état, la valeur change de façon importante, et il faudrait pouvoir faire ce calcul-là. Ce que je peux juste vous dire aujourd'hui, c'est que c'est environ 5000 pour la première, environ 9000 pour la deuxième, mais vous avez une variation qui peut aller jusqu'à 100% de la valeur en fonction de l'état de votre voiture.
D'accord. Alors, pour l'état, par exemple, c'est un véhicule qui est suivi et un historique.
Ça, c'est important. D'ailleurs. L'historique est comptabilisé dans tout ça. Quand je vous parlais de l'état, il y a des choses qui sont comptabilisées dedans. Un historique complet avec, par exemple, un carnet d'entretien à jour, ça vaut cher pour une voiture de collection. Parce que là, Donc, vous l'avez pour les deux, hein, c'est ça ?
Non, justement, c'est le carnet que je ne l'ai pas.
D'accord.
Donc, je n'ai pas le carnet, mais le suivi, il y a un historique. Ce sont des véhicules qui fonctionnent parfaitement. Au niveau entretien, ils sont bien suivis. Donc, sur les deux, d'ailleurs, je viens de les chausser avec les 4 pneus. Donc, ça fait 8 pneus sur les deux.
Mais vous voulez les garder, Ahmed, les voitures, ou vous voulez les vendre?
Justement, parce que moi, j'ai 75 ans et je suis retraité depuis 15 ans. Et ma situation, malheureusement, malheureusement ne peut pas me permettre de garder les deux pour les entretenir. Vous comprenez bien que c'est un peu lourd l'entretien l'une et l'autre. Et donc, je voudrais m'en séparer d'une, c'est la première. Et mon fils m'a conseillé de vendre la première et garder la V8.
Oui, il faut effectivement garder la V8, qui sera plus intéressante en collection, mais la première, vous n'en tirerez pas beaucoup plus que 5000 euros. Hein.
Merci Ahmed, en tout cas, pour votre appel. 7h20 sur RMC. Voilà, vous pouvez le remarquer, on évoque tous les sujets liés à l'automobile, hein, que ce soit la cote des véhicules, à des problèmes techniques, au choix aussi d'un nouveau véhicule, hein, si vous voulez vous offrir une nouvelle voiture. C'est le moment ou jamais. On est là jusqu'à 10h avec Jean-Luc, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour nous joindre. N'hésitez pas. Il est temps maintenant de retrouver le bon plan sécurité de ce dimanche.
RMC, votre auto.
Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, est signé
Jean-Luc Moreau.
Alors le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, Jean-Luc, c'est un peu comme la table de multiplication par 7 que vous n'avez jamais véritablement intégré.
Ben tiens, vous êtes capable de nous la faire, la table de multiplication par 7?
Ah ben écoutez, oui.
Fois 7, 7, ça, jusqu'à là, ça va. Et 10 fois 7, 70.
En fait, on va parler des ronds-points maintenant, ouais, Jean-Luc. Ouais. Ou plutôt des carrefours giratoires.
Ben oui, donc, mais tout ça, la table de multiplication par 7, c'est pour dire qu'en fait...
Oui, on croit savoir s'en souvenir, mais quand on
nouveau,
commence à la réciter,
c'est pas nouveau, mais c'est des gens du mal à maîtriser un peu.
Exactement. 4 x 7
28.
Ah, quand même, il était temps. Donc la France est désormais la championne d'Europe de ce style d'équipement. C'est vrai qu'on a des ronds-points un peu partout. Ce serait donc peut-être pas mal de rappeler la règle du ronds-point.
Alors François, d'abord, il faut faire la distinction. Il y a deux types de carrefours giratoires.
Ah.
Il y a ceux, bah oui. Tant qu'à faire, autant faire...
Ça aurait été trop simple.
Je parlais hier de Shadok, autant faire Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce
Bien
pas
sûr.
Donc il y a ceux avec priorité à droite classique et ceux à priorité à gauche, ce qui est l'unique cas de figure où la priorité appartient au véhicule qui vient de la gauche.
On peut donner un exemple de carrefour à priorité à droite, par exemple
le plus célèbre du monde, c'est sans doute la place de l'Étoile à Paris. Hein, toutes les rues qui débouchent sur la place de l'Étoile.
Quel bonheur,
celui-là. Où se trouve l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est un truc pour tester les jeunes permis.
Ah bah
hein,
ouais.
Si vous arrivez à faire le tour en moins de 5 minutes... C'est bon.
Vous l'avez.
Ouais. Alors, il y a des feux rouges, hein, quand même, sur les roues adjacentes. Et quand ils sont en vert, ils donnent la priorité aux véhicules qui viennent de droite. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà engagés sur le rond-point doivent s'arrêter.
Mais parfois, et c'est là où ça se complique, c'est le contraire.
Bah ouais, c'est toute la subtilité du code de la route. En France, la très grande majorité des carrefours giratoires donnent la priorité à celui qui est déjà engagé dans le rond-point. C'est donc celui qui va s'engager qui doit s'arrêter. Alors la première version française de ce rond-point à l'anglaise, parce que ça nous arrive d'Angleterre, figurez-vous, a été inaugurée en 1976 à Quimper,
ah oui,
dans le Finistère. Vive la Bretagne. Mmh. Alors son entrée officielle dans le code de la route a été effective en 1983.
Donc on laisse passer la voiture qui vient de notre gauche, mais ensuite, lorsqu'on s'engage sur le rond-point, il faut circuler où ?
Bah ça dépend. Voilà, on était en Bretagne, maintenant on est en Normandie, ça dépend.
Ça
dépend de l'endroit où se trouve la sortie que vous souhaitez emprunter. Il y a aucune obligation de circuler sur la voie de gauche, c'est-à-dire celle la plus proche du centre du rond-point. Par exemple, si vous cherchez une direction, il est préférable de rester sur la voie de droite. En revanche, si vous savez où vous allez et que vous faites plus de la moitié du tour du rond-point, il est préférable de vous installer sur la voie de gauche et de conserver votre clignotant à gauche.
Mais pour sortir ?
Alors, pour sortir, vous devez obligatoirement vous trouver sur la voie de droite. Il est interdit, comme le font certains hurluberlus, de couper toutes les files de circulation pour sortir. À la sortie précédente, celle que vous allez emprunter, vous devez vous placer sur la file la plus à droite. Mmh. N'oubliez pas que la manœuvre de changement de file, potentiellement dangereuse pour les autres usagers, est une des plus réglementées du code de la route. Vous devez donc contrôler la présence d'autres véhicules à l'aide des rétroviseurs. Mettre votre clignotant et changer de fil, ça paraît évident quand je le dis, mais personne ne le fait.
Ah, il faut faire aussi attention aux deux roues dans
l'histoire. Effectivement, les utilisateurs de deux roues sont les victimes les plus fréquentes des accidents sur les ronds-points. D'ailleurs, si vous circulez à vélo, il y en a de plus en plus, ou à cyclomoteur, pour limiter le risque, il est préférable de toujours circuler sur la voie la plus à droite et de bien faire attention à ceux qui vont arriver de votre gauche et qui vont certainement vous couper la route sans clignotant et sans regarder.
Quelle pagaille ces ronds-points. Tiens, il y a un auditeur fidèle, Thierry, qui nous dit que fin 2018, il y avait plus de 68 000 ronds-points. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui vous paraît exact.
Oui, il me semble avoir vu 70 même, moi.
C'est dingue.
Ouais, on est champion parce qu'en fait, ils ont été subventionnés, les ronds-points.
Ah bah oui, bah voilà. Voilà.
Donc, et vous savez,
ça a dû faire la fortune des patrons de BTP, des trucs comme ça, non?
Ouais, sans doute, parce que moi,
En plus, il y a toujours une statue ou un truc horrible au milieu d'un rond-point, vous
avez remarqué? Pas toujours,
mais
j'ai vu des ronds-points avec une entrée, une seule sortie. On se demande à quoi sert le rond-point.
Bon allez, on revient dans un instant. La météo, et on repart avec Isabelle qui sera avec nous, qui va nous parler de son Subaru. Tiens, on parle pas souvent de Subaru dans ce rendez-vous auto.
Elle a les yeux bleus.
Pourquoi Isabelle? Ah oui, Isabelle. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est la culture inconnue. Hein. Vous êtes de la génération des inconnus, Jean-Luc. Hein?
Ah oui, mais vous savez que je trouve que personne n'a fait mieux en matière de
vous voulez qu'on en parle là tranquillement, qu'on fasse un petit point. vous voulez vous allonger, qu'on fasse une thèse sur les inconnus.
Il n'y a pas de divan, c'est dommage.
Hein. Oui, c'est vrai.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour de votre week-end des experts loto, 7h30. Un grand bonjour à vous qui venez peut-être d'arriver et bon réveil avec RMC jusqu'à 10h, votre auto. Jean-Luc, on accueille Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour Isabelle. Non, Isabelle, monsieur.
Ça passe pas. C'est pas possible. C'est Jean-Luc et François.
Jean-Luc et François, bonjour. Voilà. Je suis ravie d'être avec vous ce matin.
Eh bien, écoutez.
J'écoute votre émission tous les dimanches.
C'est donc vous.
Et je trouve qu'elle est très intéressante.
Eh bien,
en
dites-moi.
En tout cas, elle m'a appris beaucoup de choses. Voilà.
Eh bien, ça, c'est très gentil, Isabelle.
Ben, vous savez quoi, moi aussi.
Vous êtes la sœur de Jean-Luc, peut-être, non? Ou quelqu'un de sa famille proche?
Non. On n'est même pas mariés, Isabelle.
Non.
Pas du tout.
Et vous êtes dans le Var, donc, Isabelle, hein, c'est ça?
C'est ça. Je suis dans le Var.
Et on vous écoute.
Alors, je vous appelle parce que j'ai fait l'acquisition d'une Subaru Forester 3. Alors, je vous dis ce que j'ai marqué parce que je ne connais pas trop, SH2.0 diesel.
D'accord.
De 2009, avec 250 000 km au compteur.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
Et donc, bon, qui était en parfait état. Donc, la personne qui l'avait avant était très rigoureuse sur toutes les révisions. J'ai le carnet d'entretien. Enfin, tout était très bien. Enfin, vraiment, elle allait très bien. Et puis, disons qu'à un moment, j'ai eu un problème avec le filtre à particules,
oui.
qui était encrassé. Donc, mon garagiste, après m'avoir fait mettre d'abord un produit, vous savez, les produits
pour aider un peu. Oui, mais attendez, 250 000 km, là, le produit, ça ne sert plus à rien. Un filtre à particules, il a une durée de vie, normalement, on va dire, allez, à partir de 150 000 km, il faut envisager de le remplacer. Donc le vôtre, déjà, il a fait 250 000 km.
Ah non, mais il avait été changé.
Ah, il avait déjà été changé.
Il avait fait que 30 000 km.
D'accord, et vous l'avez acheté à combien de kilomètres, votre voiture?
250.
Ah, 250, si d'accord, oui.
À 250 000 km, moi je l'ai acheté, mais le monsieur qui me l'a vendu, il avait changé à 220 000.
D'accord. Bon, bah, il avait déjà fait beaucoup de kilomètres. Et vous avez fait combien de kilomètres depuis?
Depuis, j'ai pas fait beaucoup, moi, parce que si je fais 10 000 km, c'est tout ce que je fais.
D'accord. Et vous faites quoi comme type de trajet, Isabelle?
Le week-end, je vais à mon cabanon. Donc, je fais 200 km. Je fais toute la route rapide.
Ouais.
Et puis, sinon, je fais de la ville, mais très peu, quoi.
Vous faites des petits trajets, donc?
Voilà, c'est ça.
Bon,
c'est ça.
Alors, donc, vous avez fait rechanger le filtre à particules, voilà. Parce que vous aviez un témoin d'alerte qui vous disait que, attention, le filtre à particules était obstrué, c'est ça?
C'est ça. Mon garagiste m'a fait tout ça. Et puis, au moment que je récupère ma voiture, il m'a dit, écoutez, je suis très, très, très embêtée parce que le voyant filtre à particules, et du coup, le voyant filtre à particules, lui, clignotait. Puis, vous savez, il y a toujours le check engine et puis la désactivation du contrôle de dynamique qui était allumé aussi. Mm-hmm. Il m'a dit, impossible qu'il s'éteigne. Il m'a dit, votre voiture n'a rien. Et alors, il a passé 3 valises diagnostiques, la sienne. Il a passé une valise diagnostique d'un copain qui ne fait que des diagnostics. Et il y a même un technicien de Subaru qui est venu, qui a passé sa valise aussi.
Non mais...
Et le diagnostic, c'est DPF bloqué position maximum, sans défaut.
Oui, alors, parce que ce qu'on fait...
Bon courage, Jean-Luc. Hein. Isabelle.
Mais ce qu'on fait quand on change un filtre à particules, il faut faut rentrer dans le calculateur. Alors, le technicien de Subaru, normalement, il doit savoir ça.
Attendez, c'est le technicien de Subaru, si c'est pas ça...
il faut...
Non ?
Oui, oui, il faut réinitialiser le calculateur pour que lui prenne en compte le fait que le filtre à particules ait été changé. Pourquoi ? Parce que un filtre à particules, petit à petit, même s'il arrive à fonctionner correctement, il y a un taux de cendre qui va augmenter au fil des kilomètres. C'est pour ça que je vous disais que la durée de vie, c'est environ 150 000 kilomètres, parfois 200 000 kilomètres. Tout dépend des types de trajets qu'on fait. Donc, il y a un algorithme dans le calculateur qui prend le kilométrage en référence pour dire, bah, quand on arrive à 150 ou 200 000, voilà, on doit avoir un taux de cendre qui est suffisamment élevé pour nécessiter, sans forcément qu'il y ait un voyant d'alerte, pour nécessiter soit un nettoyage en profondeur du filtre avec des montages, soit un remplacement du filtre. Donc il faut qu'il y ait une remise à zéro quand on a remplacé le filtre. Est-ce que cette remise à zéro était faite ou pas ?
Alors ça, ils m'en ont pas parlé.
Eh ben voilà.
Donc je pense que votre problème, il vient de ça. Parce que là, en gros, la valise, elle vous dit, bon bah super, ok, le filtre à particules, il est nickel, il n'y a pas de défaut, mais ça s'allume quand même. Bah, c'est simplement un problème de remise à zéro du calculateur.
D'accord.
Ce qui est étonnant, c'est que l'ingénieur de chez Subaru ne le sache pas.
Alors, en fait, est-ce qu'il est ingénieur ? Bon, le gars, il est venu, il a une valise Subaru, mais bon, c'est tout.
Non, parce qu'après, lui, celui de Subaru, il m'a dit, peut-être ça viendrait de la vanne de GR, mais à ce moment-là, la valise diagnostique, elle le dirait.
Ben non, parce qu'en fait, la valise diagnostique... Alors, aujourd'hui, tout le monde raisonne avec la valise diagnostique. La valise diagnostique, elle est capable de diagnostiquer des problèmes électroniques. Des problèmes mécaniques, elle y voit que dalle. Ben S'il n'y a pas un capteur dans le coin qui vous dit « Attention, ça marche pas », donc la vanne EGR à 250 000 ou plus maintenant, parce que vous l'avez acheté à 250 et peut-être 280, à 280 000 km, si elle a jamais été nettoyée ou remplacée, c'est clair que elle est un petit peu comme les poumons de François, quoi. Elle doit être encrassée. Hein.
D'accord.
Donc d'accord. Voilà. Donc il y a ça à nettoyer. Il y a les injecteurs aussi qui doivent être à nettoyer. Dites-vous bien qu'un diesel, là je parle pour tous les gens qui nous écoutent, les diesels modernes, donc ceux qui ont des filtres à particules, des injections haute pression, ça nécessite un entretien très scrupuleux et à partir d'un certain kilométrage, contrairement aux vieux diesels qui pouvaient faire, allez on va dire 1 million de kilomètres sans avoir de choses réellement importantes à remplacer, ça nécessite aujourd'hui des remplacements. Voilà, il n'y a pas toute magie à un prix. J'aime bien cette phrase. Donc on a baissé spectaculairement les consommations, on a baissé aussi un peu la pollution, mais pas autant qu'il aurait fallu. Tout ça, ça se paye au moment où il faut faire l'entretien, surtout sur les véhicules qui sont fortement kilométrés.
D'accord.
Donc il est possible sur la vôtre qu'il y ait aussi quelque chose à faire sur la vanne EGR. Alors une vanne EGR, ça se démonte, ça se nettoie. Hein.
Oui, avant de me la changer.
C'est pas vous qui allez le faire.
Non.
Mais ça se démonte, ça se nettoie.
Non.
On peut pas le faire avec l'éponge de la cuisine, c'est pas possible.
Ah bah quand vous verrez ça, quand on démonte une vanne EGR, un peu l'encrassement de la vanne EGR, ça fait comme imaginez du Nutella en un peu plus compact.
D'accord.
Voilà, ça fait un peu un truc comme ça, mais noir.
Mmh.
Alors faites des tartines avec, vous me direz quel goût ça a, je sais pas.
Isabelle, merci. Puis on voit en tout cas la fiabilité des Subaru, parce que mine de rien, bon voilà, il y a un voyant qui s'allume, mais
ouais, pour
250 000 km.
Mais c'était ils avaient fait un chouette moteur là, le 2 litres 150 chevaux. Il y en a qu'un chez Subaru, alors c'est pas compliqué.
Ça existe encore, ça, Subaru ?
Oui, ça existe toujours. Subaru.
D'accord. 7h38, Jean-Luc, qu'est-ce que vous êtes prêt pour notre minute verte ? On va passer du diesel à la minute verte, là.
Exactement, c'est parti.
On change d'univers.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Et on va parler de cette première hybridation d'un véhicule d'époque, Jean-Luc.
Ouais, grâce à l'aventure Peugeot, elle roule depuis cette semaine, cette voiture. Donc, on est en plein dans l'actu. Alors, pourquoi avoir décidé de faire une hybridation sur un véhicule ancien? D'abord, c'est une voiture de 1954. C'est une Sunbeam Alpine Mark 1 de 1954. C'est une voiture qui était apparue dans un film. Est-ce que vous avez vu La main au collet avec Gary Grant et Grace Kelly?
J'ai dû le voir, mais je m'en souviens plus.
Voilà, c'est une chouette auto. Tiens, d'ailleurs, attendez, regardez, j'ai une photo. Alors, c'est vrai qu'à la radio, ça passe pas bien, mais au moins, vous verrez, voilà, ça ressemble à ça.
C'est très beau.
Voilà, c'est une belle voiture.
Belle voiture.
Alors pourquoi est-ce que l'aventure Peugeot Citroën a modifié une Sunbeam ? Simplement parce que Sunbeam est dans le patrimoine en fait de Peugeot. C'est marrant, hein ?
Ah oui.
Vous savez que la première voiture de James Bond dans Dr. No, c'est une Sunbeam. C'est une Sunbeam Alpine. Alors c'est la deuxième génération de Sunbeam Alpine. Et elle est de couleur bleue d'ailleurs. J'en ai une comme ça, tiens, parce que je suis un peu James Bond moi aussi.
C'est sûr.
Voilà.
Lequel vous êtes ?
Ah, tous.
Tous.
Moi, je suis intemporel.
Intemporel.
D'accord. je suis intemporel. Parce qu'en fait, la marque Sunbeam faisait partie du patrimoine. C'était une marque qui avait été rachetée par Chrysler Europe. Et quand Chrysler Europe a été rachetée par Peugeot, par PSA.
Ils ont hérité de cette marque.
Ils ont hérité de cette marque. Donc là, c'était en fait l'association Smart Electric de Monaco. Donc, en référence à ce film. Et surtout au fait que Grace Kelly avait roulé dans cette voiture, qui a demandé à l'aventure Peugeot Citroën de modifier cette voiture. Voilà le pourquoi du choix de cette voiture. Ensuite, pourquoi une hybridation ? Ben, vous savez, il y a des contraintes de circulation qui sont de plus en plus nombreuses dans les villes. Il y a plein de villes qui, on va dire, dans un avenir relativement proche, ne donneront plus accès aux véhicules thermiques, en tout cas pour les centres-villes. Donc, ça permettra aux voitures anciennes d'avoir, on va dire, une seconde vie et de pouvoir continuer à rouler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de l'aventure Peugeot Citroën ? Ils se sont dit d'abord, on va pas dénaturer ce véhicule de collection en retirant tout et en modifiant complètement. On garde la mécanique d'origine sans rien toucher et on fait une adaptation qui, en plus, est réversible, c'est-à-dire que ça sera démontable.
D'accord, on peut l'enlever facilement.
On pourra l'enlever facilement. Alors, pour ça, ils ont choisi un système d'hybridation qu'on appelle légère. Donc, c'est une hybridation avec une batterie lithium-ion en 48 volts, d'accord, qui est d'une capacité qui est relativement faible, hein, 4 kWh seulement. Donc, 4 kWh, tout à l'heure, vous disiez comment ils ont fait pour placer la batterie. Bon, c'est pas une batterie de Zoé qui fait 50 kWh, là, c'est 4 kWh simplement.
Donc ça prend beaucoup moins de place, en fait, dans la voiture.
Ça prend beaucoup moins de place, donc elle est placée dans le coffre de la voiture, c'est beaucoup moins compliqué à installer. Le moteur est placé sur l'essieu arrière, en avant de l'essieu arrière. Donc, pareil, c'est facile à monter et démonter. Alors, évidemment, ça n'offre pas les mêmes performances qu'un vrai système d'hybridation ou qu'une voiture électrique. On a un moteur qui fait simplement 10 kW. 10 kW, 1 kW, c'est 1,36 chevaux. Ça fait 13,6 chevaux. Donc 13,6 chevaux, vous voyez, vous pouvez rouler à 50 km/h au maximum en électrique. Mais si c'est pour circuler en ville, 50 km/h, ça suffit parfaitement.
Bien sûr.
Et vous pouvez faire aux alentours.
Surtout pour des promenades comme ça, en général, ce type de véhicule, c'est pour ça.
Exactement. En fait. Alors, vous allez rouler.
On va pas faire des compétitions.
Alors, vous allez rouler en mode normal. Parce que là, attention, c'est pas un système d'hybridation qui vous permettra de récupérer l'énergie décélération, etc.
Oui. La batterie est vide, elle est vide.
La batterie est vide, elle est vide. Vous allez rouler en mode normal pour arriver en ville. En ville, vous basculez sur le système électrique.
Donc, et là, il y a un bouton dans la voiture, c'est ça ?
Oui, alors je pense que ça se passe. Je ne l'ai pas vu en fait.
Vous ne l'avez pas vu ?
Voiture. Je vais aller la voir.
Ce n'est pas automatique en fait. C'est-à-dire que là.
Je pense que vous devez le basculer.
D'accord.
Je crois que ce n'est pas automatique. J'irai la voir parce qu'elle n'est pas loin. Donc,
j'arrête le moteur thermique. J'appuie sur un bouton. On peut imaginer
voilà,
que là,
vous passez en électrique et vous pouvez faire 50 km en électrique. Et c'est vrai que c'est une bonne solution qui permettra donc à des voitures comme ça, à la fois de faire de longs trajets, de pouvoir continuer à rouler et être considérées comme des vraies voitures de collection, et en même temps d'être utilisables en agglomération.
Et dans les villes où on sait ça devient de plus en plus compliqué de circuler.
50 km. En plus, là, ils sont en train de travailler sur une deuxième génération qui offrira un peu plus de puissance électrique
et
un peu plus d'autonomie.
Ouais, c'est pas mal. Voilà pour notre minute verte, Jean-Luc. On revient dans un instant. 7h42. Ah, voilà Kevin. Kevin a sorti James Bond. C'est vrai qu'en plus, le monde de James est endeuillé, hein, puisque la semaine dernière, nous a quitté Sean Connery à l'âge de 90 ans.
Eh oui.
Eh oui. Ça m'a donné envie de revoir tous les James Bond, tiens.
Ben oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a plein de monde. À mon avis, si on regarde sur les plateformes VOD.
Ouais. Ah bah oui, bien sûr.
À mon avis, il doit y avoir une demande assez forte depuis la semaine dernière.
Après, il n'y avait pas que Sean Connery. Hein. L'un des tout premiers, c'était George Lazenby. Il en avait fait un.
Après Sean Connery, oui.
Exactement. Ouais. Il en avait fait un. Et après, Sean Connery était revenu,
oui,
je crois.
Oui, il me semble.
Allez, on revient dans un instant et on enchaînera avec Guy qui nous attend au 32-16. Il aimerait savoir pourquoi, dans notre folie des voitures japonaises, on parle beaucoup de Toyota et pas beaucoup de Honda. Et il aimerait aussi avoir votre avis sur la Honda Jazz. Le 32-16, la Pierre MC Direct Studio, c'est votre auto. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
8h 8h moins le quart, nous voilà de retour, le week-end des experts d'automobile, et on attaque tout de suite avec la suite de vos questions. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment joindre Jean-Luc Moreau au 32-16, ou alors via l'appli RMC sur votre smartphone direct studio, n'hésitez pas. Guy est avec nous, bonjour Guy.
Oui, bonjour les Dalton. Ici l'Auvergne.
Ici l'Auvergne.
Bonjour Guy. Il y a des régions fortes où vous en parlez toujours, mais de la nôtre jamais. Mais c'est pas grave.
Vous êtes installé sur le volcan ou Guy?
On a plus que ça. On a plus que ça et des belles filles en plus. Bon, alors à part ça.
Ah, bah,
ça
écoutez, bah... vous savez quoi? On arrête, on arrive.
Non, alors parce que le problème qu'il y a, si vous voulez, on veut changer de voiture.
Ouais.
Et je vous écoute depuis, enfin bref, depuis pas mal de temps, comme on dit. Et nous avons un choix, on veut changer d'une voiture électrique. Mais les voitures électriques qu'on nous parle, c'est toujours des voitures qu'il faut recharger tous les 300 km. Et là, il y a Toyota qui sort la Yaris.
Oui, la Yaris nouvelle génération. Ouais.
Voilà, on est allé voir donc la Yaris, mais bon, ça ne nous a pas tellement... Enfin bon, oui, c'est une voiture, c'est une nouvelle, c'est ci, c'est là. Et puis on est allé chez Honda, et chez Honda, tombé sur un vendeur sans doute meilleur que les autres, il nous a dit, ben écoutez, il y en a Honda Jazz qui est machin, qui est ci, qui est là, on fait 1000 km avec un plein. J'ai dit, bon Dieu, mais qu'est-ce que ce cinéma? C'est nouveau, quoi. Alors, il nous a fait monter dedans, il nous a fait essayer, on a été époustouflés. C'est d'un silence, c'est une douceur, c'est une voiture qui est rassurante, mais attention, hein, la Toyota, je ne l'ai pas essayée. Hein. Celle-ci, ils nous ont fait essayer. Elle est jolie, elle nous a plu, on a eu un coup de cœur, mais j'ai dit, alors on va appeler quelqu'un qui peut-être y connaître, on va lui demander son avis.
Ben vous savez quoi, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Vous allez prendre une feuille et puis vous allez écrire, je dois écouter Jean-Luc Moreau toutes les semaines.
Parce que c'est ce que j'essaye de faire, mais j'ai des horaires qui sont peut-être pas compatibles avec les vôtres.
Ah ouais, c'est
vrai. Ouais, mais vous savez quoi, Guy, vous avez la possibilité de nous réécouter en podcast.
Mais je fais que ça la nuit quand je peux. J'ai pas de soucis.
Tout ça pour vous dire que Jean-Luc, on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein,
ouais, on en a parlé il y a deux mois.
C'est pas grave, on va vous faire un petit vaccin de rappel. Rien que pour
je vous fais le résumé rapide de la Honda Jazz. Elle a conservé malheureusement une esthétique. Moi je trouve qu'elle manque un peu de sexy, quoi, la Jazz. Vous voyez, en plus, quand on s'appelle Jazz, elle aurait pu être un petit peu plus, vous voyez, suave, soft.
Oui, mais c'est la Biton, elle est jolie, elle est bleue.
Oui, non, mais voilà. Bon, si vous la trouvez jolie, alors vous avez déjà gommé un des défauts principaux après, que moi je trouve.
Le look, c'est chacun.
Après, ils ont conservé, et là, ils ont un avantage sur la concurrence qui est énorme. Dans un gabarit compact, une voiture qui a une habitabilité impressionnante et surtout une modularité que personne d'autre n'a égalé jusqu'à présent. Vous avez le système, si le vendeur était bon, il vous a fait voir le système de banquette arrière, là, où on peut relever l'assise et vous allez pouvoir transporter de belles plantes. Vous m'avez dit, il y a de belles filles par chez vous, donc vous allez pouvoir mettre des belles plantes à l'arrière.
Qu'est-ce que vous êtes classe, Jean-Luc. C'est vraiment cette subtilité, cette finesse qui vous caractérise.
Mais non, belles plantes, justement, c'était plutôt bien. Non, en plus, elle a progressé. Son système d'hybridation a progressé. Aujourd'hui, on arrive à des consommations aux alentours de, on va dire, vous êtes dans une région où ça monte, ça descend, donc c'est plutôt bien pour un modèle hybride, parce que vous allez récupérer l'énergie dans les phases de descente. Donc vous serez aux alentours de, on va dire, les 5,2 litres au 100, quoi. En roulage de tous les jours. C'est une voiture qui est, si vous avez fait un tour avec, vous avez vu qu'elle est agréable à conduire. Elle est plutôt bien équipée. Bon, alors sur la finition, il y a encore des petits trucs à dire. Mais c'est vrai que, le rapport gabarit à habitabilité, les aspects pratiques, la sobriété, l'agrément de conduite, tout ça font. C'est ce que j'avais dit. Hein, vous pourrez réécouter. Ouais. On doit pouvoir trouver l'essai en podcast. Hein, c'est ce que j'ai dit. J'avais été agréablement surpris par cette Honda.
Et puis alors surtout, ils ont une boîte automatique. C'est fabuleux. J'ai jamais eu ci, puisque j'ai un Mercedes poids lourd.
Mais c'est de la variation continue. Hein. Alors vous aurez le seul truc, hein, vous aurez dans les montées quand vous doublerez un camion et que vous allez accélérer à fond. Vous avez fait de la mobilette étant jeune, peut-être, et ben vous aurez le même effet, c'est-à-dire que vous allez déboîter, accélérer, et le moteur va s'emballer d'un seul coup. C'est normal. Vous inquiétez pas, il y a rien de cassé. Hein. D'accord. Voilà, bon, c'est le seul cas de figure où c'est un peu désagréable ce type de transmission, c'est quand on réclame beaucoup de puissance pour doubler. Là, c'est vrai qu'on on a cet emballement moteur qui n'est pas forcément très agréable quand on n'est pas habitué. Mais on s'habitue.
Mais elle est très, très. Vraiment, on a été époustouflés parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas. On a toujours conduit du diesel ou des voitures essence. Mais là, c'est un univers tout nouveau et vous en parlez depuis pas mal d'années. Et on vous suit. Moi, j'écoute, je dis qu'est-ce que c'est, patati, patala. Et en définitive, on arrive à vos compétences et on est content de, que vous pensiez ça. C'est exactement ce que l'on pense. Et alors, autre chose, est-ce qu'on peut mettre de l'éthanol là-dedans?
Alors, Honda dit non. Hein, ils sont assez fermes sur le sujet d'ailleurs, et je vous déconseille de le faire pour une bonne raison, c'est que si vous le faites et qu'il y a un problème technique, vous perdez le bénéfice de la garantie. Donc sur un véhicule neuf, il faut éviter de jouer aux apprentis sorciers.
Par contre, il m'a dit il vaudrait mieux mettre du 98.
Bon, franchement non, hein. Vous pouvez rouler au 95 de 10, il n'y a pas de problème.
Oui, il m'a dit on peut rouler.
Ah oui, non, non, mais ça ne sert à rien de mettre du 98, hein. Vraiment, hein.
Bon,
voilà Guy.
Merci de votre science.
Mais de rien, Guy.
Bonne journée, Guy.
Bonne journée en Auvergne.
Et bienvenue en Auvergne, si vous venez.
Ah bah écoutez, c'est une région qui est magnifique.
En plus, Jean-Luc carbure à la Volvic, donc tout va bien.
Je peux vous assurer qu'il y a, il y a bien d'autres choses, ne vous inquiétez pas.
Allez, merci Guy, à très bientôt.
Salut, au plaisir, au revoir.
Et c'est vrai que l'Auvergne est une région magnifique. Jean-Luc. Que diriez-vous d'un petit point sur l'actualité de la semaine dans le monde de l'automobile ? Vous êtes prêts ?
Oui, on va dire que oui. Tiens.
Allez, on met un petit peu la musique. Le trafic routier est beaucoup moins ralenti que lors du premier confinement, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué.
Ouais, c'est l'application Waze qui nous le dit. Alors que le 18 mars dernier, la distance parcourue par les automobilistes avait chuté de 83% à Bordeaux et Toulouse et près de 80% à Lille, Paris et Marseille. Le 30 octobre, elle n'a baissé que de 50% à Lille, 41% à Lyon, 38% à Paris, 37% à Bordeaux, 33% à Toulouse et 30% à Marseille.
Gérald Darmanin veut permettre aux maires d'installer des radars, écoutez bien, des radars fixes dans leur ville.
C'est une révolution pour la sécurité routière, a annoncé le ministre de l'Intérieur, qui veut que les édiles aient le champ libre pour mettre des radars vitesse de contrôle du bruit ou de la pollution là où ils l'estiment utile, et ce, sans l'accord du préfet. Cette mesure doit être intégrée à la proposition de loi pour une sécurité globale qui sera débattue à partir du 17 novembre à l'Assemblée nationale. Cette loi prévoit également le renforcement du rôle de la police municipale, qui pourrait par exemple consulter le fichier des véhicules volés, faire des saisies de véhicules ou des contrôles de permis ou d'assurance.
Bon, écoutez, alors franchement, des radars de contrôle de pollution ou de contrôle du bruit, moi je suis pas contre. Hein.
Moi non plus, mais même de contrôle vitesse, pourquoi pas.
Bah, bien sûr, aussi. Attends, si ça peut accélérer les procédures.
Voilà, si on les met à des endroits où c'est logique de les mettre. C'est
exactement. Les barèmes du bonus et de la prime à la conversion, ça c'est une bonne nouvelle, sont prolongés de 6 mois.
C'est l'annonce surprise de cette semaine. Hein. Plutôt que de toucher encore une fois au 1er janvier 2021 à toutes ces aides, le gouvernement vient de décider de maintenir les bonus et la prime à la conversion 2020 jusqu'au 30 juin 2021. En clair, le bonus accordé aux véhicules électriques sera toujours au maximum de 7 000 euros, alors qu'il devait descendre à 6 000 euros. Idem pour la prime à la conversion, dont le montant maximal de 5 000 euros pour les ménages les plus modestes est également maintenu jusqu'à fin juin. En revanche, le durcissement du malus aura bien lieu au 1er janvier 2021.
Voilà, et le prolongement de cette prime est dû au fait que il y a quasiment plus de voitures qui se vendent hein, dans cette période de reconfinement. Donc le gouvernement accorde un délai de 6 mois supplémentaire, ce qui est plutôt une bonne idée, on est d'accord. Hein.
Oui.
Et Ferrari va bien. Jean-Luc Moreau.
Histoire de terminer sur une note positive qui va sans doute réjouir de nombreux automobilistes, hein, parce qu'on a tous envie d'acheter une Ferrari.
Bien sûr.
Bon, Ferrari résiste mieux que prévu à la crise. Certes, les livraisons du constructeur italien sont en baisse de 6,5% par rapport à l'an passé, mais son bénéfice net au troisième trimestre est en hausse de 1%, ce que les actionnaires ont salué avec une augmentation de 3% à la Bourse de Milan. François, vous avez sans doute des actions Ferrari, non?
Tiens, est-ce qu'ils vont se mettre à l'électrique Ferrari?
Oui, à l'hybride en tout cas. Oui, bien sûr, à l'hybride. Et puis,
vous
savez, il y aura des Ferrari électriques. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de faire une voiture qui fait 1500 chevaux en électrique que 1500 chevaux avec un moteur thermique.
En effet.
Avec les progrès des batteries, oui, bien évidemment.
Même si c'est, on va dire, on rentre dans une nouvelle époque.
Oui,
quoi.
Mais les Ferrari, ils font combien de kilomètres par an?
Oui,
hein, franchement.
Oui. Bon, exactement. Jean-Luc, il est bientôt 8h. On revient après la météo et les infos. On attaquera notre deuxième partie de ce rendez-vous auto avec vos questions. N'hésitez pas, hein, vous pouvez nous appeler dès maintenant. 3216, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.